De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Actualité des films sortis en salle, surtout ceux qui sont dans les salles depuis le 29 janvier, et Blind Test, c'est Cinérama. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et quel est le sommet aujourd'hui, Marine?
Alors moi, pour ma part, je vais vous parler de deux comédies. Il y en a une que j'ai adorée, il y en a une beaucoup moins. Il s'agit du Lion avec Danny Boone et de Jojo Rabbit de Taika Waititi.
Et puis toi Manu, thriller?
Deux films sur des sujets sérieux, La guerre d'Algérie avec 1500 impurs, et surtout Cuban Network, le nouveau film d'Olivier Assayas.
Et puis moi, je vous parlerai d'Un jour si blanc, de Ilmur Palmason et puis des traducteurs de Régis Roinsart. Ce sera l'occasion de jouer à un blind test spécial Lambert Wilson, puisque c'est lui qui incarne le méchant, on va dire, hein, oui. Puisque voilà, il y en a un principalement dans ce film. Voilà, ainsi débute Cinérama avec Jojo Rabbit, entre satire et tragédie, un très bon rôle pour Scarlett Johansson.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Jojo, un enfant allemand absolument fan de tout ce qui touche au nazisme, vit seul avec sa mère, jouée donc par Scarlett Johansson, qui elle a plutôt des velléités libertaires. Et pour pallier à l'absence de son père, disparu à la guerre, il s'invente un ami imaginaire. J'ai fait toutes ces rimes en R, c'est un hasard, je vous le promets. Cet ami, c'est Hitler, le Führer lui-même, avec lesquels il va lui arriver toutes sortes d'aventures. Jojo va progressivement devoir remettre tous ses idéaux, ou plutôt son idéologie, en question, lorsqu'il va découvrir qu'une jeune fille juive se cache chez lui. Le réalisateur du film Taika Waititi, qui joue ici Hitler, justement, revient avec une comédie très personnelle, très fantasque en même temps, après s'être fait connaître du grand public grâce au dernier volet de Thor qu'il a réalisé et dans lequel aussi il joue. Car c'est un réalisateur qui joue beaucoup dans ses propres films et dans d'autres, et qui a une carrière construite entre Hollywood et sa Nouvelle-Zélande natale. Jojo Rabbit est d'ailleurs lointainement inspiré de son second long-métrage Boy. Un film dans lequel un petit garçon néo-zélandais s'inventait un père fictif. Jojo Rabbit rejoint la liste des films rions avec le nazisme, tels que La vie est belle, Le dictateur bien sûr, mais aussi plus récemment Il est de retour ou Mon Führer de Daniel Lévy. Le film jouit d'une excellente écriture, toujours sur le fil entre émotion et rire, et du rire il y en a. Cette comédie est à la fois burlesque, absurde, acide. C'est un plaisir de voir que le réalisateur du très drôle Vampire en toute intimité revient à la comédie totalement déjantée. Mais pour faire une bonne comédie, il faut de bons acteurs, n'est-ce pas Danny Boone dont je parlerai tout à l'heure. Jojo Rabbit puise sa force et son rire dans une distribution qui relève du délice pour le spectateur. Sam Rockwell, Rebel Wilson, Scarlett Johansson, qui trouve vraiment ici l'un de ses meilleurs rôles. Et puis, Jojo Rabbit, ce n'est pas seulement une comédie qui rit de l'un des plus gros traumas du siècle dernier. C'est aussi une jolie réflexion sans pathos sur le nationalisme, sur les idéologies et sur la différence. Le film a vraiment trouvé le ton juste pour être à la fois une comédie visible par les enfants, tout en étant vraiment un film adulte, car c'est un film qui est aussi très cruel par moments. Et je pense que c'est un film qui va mettre tout le monde d'accord. C'est un film qui est extrêmement réussi pour moi. C'est l'une des perles de ce début d'année. D'ailleurs, il est quand même en lice pour 6 Oscars. Que je pense qu'il va, je pense qu'il va faire une bonne radia d'ailleurs.
Alors comédie familiale, alors attention, ne vous laissez pas surprendre, il n'y a pas de bande-annonce en version française, mais il y a bien des versions françaises dans les cinémas français.
Qui est très bien faite, je l'ai vu en français et vraiment pour une fois, je n'ai rien à dire.
Voilà, c'était Jojo Rabbit, un film dans les salles depuis le 29 janvier, tout comme Cuban Network d'Olivier Assayas, thriller politique en pays castriste.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Il a trahi la nation. Il a volé un avion. Il est passé sous nos radars. Et a atterri sur une base militaire à Miami.
Et non, il ne s'agit pas d'un super-héros, hein, comme, comme pourrait le laisser entendre la bande-annonce. Alors, après le catastrophique Double Vie, un désagréable comédie salonarde hein, qui reste sans doute le pire film de sa carrière, Olivier Assayas remonte de quelques crans et renoue avec l'inspiration politique et romanesque de Carlos, dont il retrouve l'excellent Edgar Ramirez, qui incarne très justement un espion castriste infiltrant le sol américain aux côtés d'autres compatriotes cubains. Alors, l'histoire est relativement connue, hein, ayant défrayé le monde de la politique américaine au début des années 90, sous la présidence de Bill Clinton, la guerre froide touche à sa fin, le bloc communiste de l'ex-URSS s'effondre, le département de contre-espionnage de la Havane envoie 5 hommes en Floride, à Miami, la mission donc infiltrer et surveiller un groupe anticastriste responsable de multiples attentats sur l'île. Alors ce collectif, hein, composé d'ex-cubains déçus par la politique de Fidel Castro, n'est pas commandité par les Américains. Ils sont présentés naïvement peut-être comme des idéalistes rêvant d'une révolution pacifiste en renversant le pouvoir et en évitant plus que possible de commettre des crimes lors de leurs actions. Alors réflexion intéressante hein, sur les faux-semblants et la duplicité des rôles en pleine guerre froide, Cuban Network peine pourtant à captiver, ne trouvant jamais le souffle et l'ampleur que méritait un tel sujet complexe. La faute en incombe en premier lieu à une construction narrative chaotique et souvent maladroite, nuisant à l'adhésion d'un récit confus, embarquant avec lui des personnages manquant d'épaisseur, réduits à des pantins qui tour à tour manipulent ou sont manipulés par des instances supérieures. Alors, ce problème de structure est même inconsciemment avoué au cours d'un flashback très didactique, en opposition au reste, expliquant à des spectateurs qui peuvent être un peu largués quand même, comment cette mission visant à démanteler le réseau anticastriste s'est organisée dans le temps. Alors, pour un peu, le film prend des allures de mini-série, alors montée un peu en dépit du bon sens, dans laquelle les auteurs auraient extirpé et ou trafiqué une bonne partie de l'intrigue pour livrer finalement un film qui ne durerait pas plus de 2 heures. Hein. Cette impression fâcheuse se confirme par le traitement aussi des personnages assez superficiels qui disparaissent subitement du film, lâchement abandonnés en cours de route.
Il est important que vous sachiez la vérité. Les organisations anticastristes de Miami veulent que le monde pense que Cuba est un pays dangereux. Le seul et unique moyen d'arrêter ces gens, c'est en infiltrant les organisations terroristes en Floride. On a déjà des hommes sur place.
Un réseau efficace d'espions cubains à Miami.
Et avec ces gens, on ne sait pas très bien où finit la lutte pour un Cuba libre et où commence le trafic de drogue.
Comprenez bien que votre sécurité, celle de votre époux, celle de votre fille, celle de tous, dépend de vous-même.
Vous vous exposez à un grave danger.
Olivier Assayas se focalise essentiellement sur le personnage d'Edgar Ramirez, hein, qui effectivement bénéficie d'un vrai regard de cinéaste, le seul à susciter une empathie. Alors il possède une épaisseur et une ambiguïté qui le rendent immédiatement attachant. Alors face à lui, Penélope Cruz joue l'épouse aimante et fidèle, défendant comme elle peut un rôle de potiche sans aucun relief, à peine digne d'une mama issue de la telenovela. Mais sa présence est due certainement à son rôle, au financement du film, sans qui il n'aurait jamais pu avoir lieu, enfin, d'après les propos d'Assayas. Hein. Du coup. Alors pourtant, Cuban Network hein, se laisse agréablement visionner jusqu'au bout, sans ennui véritable, hein, grâce à l'appétence filmique dont Assayas fait preuve. L'auteur des Destinées sentimentales n'a jamais été un grand cinéaste. Hein, il n'a même jamais, je dirais, complètement réussi un film en entier, à part peut-être ses 2 essais avec Maggie Cheung, Irma Vep et Clean, sans doute parce qu'il posait sur son actrice un regard amoureux, comme il le fera un peu plus tard, mais avec moins de réussite sur Kristen Stewart. Mais l'ex-critique des Cahiers du cinéma est un filmeur né. Dès qu'il braque sa caméra sur ses comédiens ou lorsqu'il observe les lieux, il devient passionnant. Lorsqu'il oublie de penser, qu'il laisse tomber la narration, visiblement pas faite pour lui, Assayas parvient à subjuguer par sa science du cadrage, ses effets de montage, l'élégance et surtout l'énergie avec lesquelles la caméra s'empare de l'espace afin de créer un vertige. Il a aussi un sens inné de la topographie, hein, prendre le pouls d'une ville, d'une rue, que ce soit Miami ou La Havane. Dans ces moments, je dirais, purement cinétiques, Cuban Network captive, laissant transparaître sa fascination pour les grands formalistes contemporains comme Wong Kar-wai et Michael Mann. À mon avis, ce sont ses références principales. Hélas, il n'arrive jamais à conjuguer la forme et le fond. La dimension réflexive de ses films apparaît souvent scolaire quand elle n'est pas tout simplement ringarde, dépassée par la réalité pour un artiste qui se pense à la pointe de la modernité. Ça vaut surtout pour son avant-dernier film. Car là, le discours nuancé qui renvoie un dos à dos communisme et capitalisme ne produit pas grand-chose. Il reste à la surface d'une piste assez truculente hein, sur un paradoxe typique du cinéma d'espionnage, hein, celui de présenter des pro-castristes jouissant finalement du luxe d'un système qu'ils combattent et exècrent. Alors le film évite au moins les fumisteries pseudo-avant-gardistes de Demon Lover ou Personal Shopper. Alors voilà, je dirais que dès que Cuban Network devient bavard, il se met à bégayer, il nous égare dans une intrigue quand même très compliquée, plus alambiquée que complexe, mais le film se laisse quand même regarder parce que visuellement, ça vaut quand même le détour.
On peut s'installer dans les salles depuis le 29 janvier pour voir Cuban Network, et c'est le cas aussi pour Les Traducteurs de Régis Roinsa, un thriller entre suspense et vengeance, et ce qui va donner l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Lambert Wilson.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Vous pouvez vous estimer chanceux.
Alors chanceux, il faut voir. Hein. 7 ans après Populaire, qui avait dépassé le million d'entrées et qui nous emmenait dans la nostalgie des années 60, Régis Roinsa quitte la douce comédie pour le thriller qu'on pourrait qualifier d'européen, tant le casting, a raison, hein, nous permet de voir des comédiens italiens, espagnols, anglais ou allemand. Alors le pitch est limpide, bien trop pour que le récit le soit. 9 traducteurs sont rassemblés dans un bunker installé dans les sous-sols d'un château pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale, un livre intitulé Dédalus qui aurait pu être par exemple Millennium. Toutes les précautions sont prises pour que la sortie du livre soit simultanée dans plusieurs pays afin de créer l'événement qui fera rentrer l'argent dans les caisses de l'éditeur.
T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail ?
Vous avez fait bon voyage ? Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici.
La confiance règne.
Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet.
Les traducteurs commencent avec la mise en place de ce huis clos, alors on connaît les règles. C'est bonne bouffe, vin et champagne tous les jours, mais on travaille de 9h à 20h sous la surveillance de gardes russes. Alors si certains ont du mal à accepter ces conditions de travail, d'autres s'emploient à la tâche, trop contents de connaître le fin mot d'une trilogie connue dans le monde entier. Mais voilà, la machine va se gripper pour l'éditeur Erik Engström, interprété par Lambert Wilson.
Les 10 premières pages de Dédalus tome 3 ne t'appartiennent plus. Si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures, 100 pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile.
Je n'arrête pas de leur lire. Tu dois comprendre comment tu as fait.
Ce qui s'apparente à une fuite va se transformer en hémorragie car l'éditeur ne compte pas plier. Et de manière assez amusante, les traducteurs, bien conscients des mécanismes du polar, commentent les événements avec des éléments du livre qu'ils traduisent ou encore les codes du roman de gare. Mais il faut bien quand même admettre que les traducteurs passent assez vite sur les enjeux de la traduction. Il y a bien quelques joutes verbales qui vont nous faire entendre l'exercice de la subjectivité, par exemple, et d'autres qui pointeront un système où, sauf en France, le traducteur n'est qu'un tâcheron et n'a aucun droit d'auteur sur les millions qu'un best-seller peut engranger. Alors, de littérature, il n'est que très peu question hein, dans les traducteurs, mais de machination, oui, sur le plan du scénario. Les traducteurs est une réussite, une vérité est sans cesse balayée par une autre, avec le jeu de flashback et de saut dans le temps, qui nous permettront ainsi de quitter la tension du bunker. Ce qui démarrait comme un huis clos s'apparente à un film qui éclate son récit pour mieux perdre le spectateur, lui faire suivre des pistes qui devront être abandonné. L'éditeur Lambert Wilson avait prévenu, hein, il est toujours lui parvenu à déjouer les casse-têtes, les tours de magie. Et à la manière d'un lecteur ou d'un spectateur qui tente lui aussi de savoir où on l'emmène, eh bien il va là aussi tenter de comprendre comment il a pu être piraté. Alors il serait faux de dire que le récit n'est pas prenant, pour cela la mise en scène se déploie sous 3 formes. Le thriller d'énigmes, très Agatha Christie on va dire, hein, qui a fait le coup. Le film d'arnaque et enfin le film de vengeance. Mais on pourrait quand même regretter la manière dont est mené ce récit. Si le scénario est suffisamment huilé pour balayer ses incohérences, certains personnages sont trop clichés, à commencer par l'éditeur, hein, Lambert Wilson qui ne fait qu'en rajouter. On a là un être cupide uniquement attiré par l'argent et le pouvoir et prêt à tout pour combler ses désirs. Mais quand on l'entend dire que faire d'un livre un succès n'est pas sale, eh bien dans sa bouche, ça le devient. Ce qui rend inutile ce dialogue et la séquence entière, à mon sens. Certains traducteurs sont aussi caricaturaux, on y a tout mis, hein, l'introverti, le dilettante, la mère de famille qui n'a pas pu accomplir une carrière d'écrivaine, celle qui est plaquée, le vieil universitaire gauchiste et une poupée russe qui s'incarne dans un des personnages du livre à traduire. Mais si la direction d'acteur est problématique, eh bien ça ne suffit pas quand même à gâcher le plaisir de voir un film bien écrit. Ça c'est mon avis, ça c'est pas le tiens, Marine, rapidement.
Moi, j'ai été extrêmement gênée vraiment par le jeu, en fait, que j'ai trouvé hyper cliché, extrêmement stéréotypé. Je pense, en fait, que les comédiens ont été très mal dirigés vraiment par Régis Roinsa, parce que je les ai tous déjà vus jouer, en fait, dans d'autres films, et je les ai jamais trouvés mauvais. Et là, vraiment, je trouve que c'est à l'unanimité un ratage au niveau de la direction d'acteur.
Mmh, c'est vrai. Bon, après, on va s'en rendre compte peut-être d'ailleurs avec ce blind test, en jouant avec la filmographie d'Humbert Wilson, il a tendance parfois à en rajouter. 5 extraits à écouter donc sur une filmographie qui s'étend sur 40 années de carrière, plus de 100 films tournés. Premier extrait.
Vous agissez en permanence dans la plus parfaite illégalité. Vous voulez parler de mes constructions sauvages, de ça et du reste. Alors soyons francs jusqu'au bout. Ce que vous me reprochez, ce n'est pas de les loger, légalement ou pas, mais c'est d'en parler.
Que vous parliez trop, c'est certain.
Et toujours pour nous demander de protéger...
Ces clochards. Mais il faut 3 jours, monsieur, pour fabriquer un clochard, à partir de la minute où il n'a plus un toit sur la tête. Vous devriez essayer, si le cœur vous en dit. Allez donc dormir 2 ou 3 nuits sous les ponts, sans vous raser ni changer de vêtements, vous serez surpris du résultat.
Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous leur donnez une légitimité.
Le fait d'être un homme n'en était pas une.
C'est trouvé, Manu ?
Hiver 54.
Oui,
de
film
de Denis Amar.
Oui. Film sur le rue d'hiver 54, hein, le drame des sans-abri et l'action de l'abbé Pierre, donc incarné par Lambert Wilson. Deuxième extrait.
Bizarre, ça pue la vinasse.
C'est normal, j'ai emmené un clodo à la piscine. Figure-toi, il s'était couché dans ma voiture pendant que j'étais au supermarché.
Qu'est-ce que tu vas emmener des clodos à la piscine maintenant ? Ça te suffit pas de soigner tes bègues, d'aller à la prison tous les samedis matins, d'occuper des papiers d'autres abrutis, là, jamais fermer ta bagnole ? À partir de maintenant, il va falloir arrêter tes conneries, Armel. Bonne, ça s'écrit pas avec un C. D'ailleurs, faut que je te parle sérieusement, j'ai eu un rencard hyper important ce matin avec maman et René Guy.
Alors, bah, je ne pensais pas que vous alliez...
Est-ce que c'est Catherine Fraud ?
Ah non, pas du tout. C'est un film de Valérie Lemercier qu'on vient d'entendre. Et elle incarne Armel, une princesse. Ah bah, peut-être, oui.
Palais Royal, non ?
Oui, Palais Royal.
Palais Royal.
Oui, c'est ça.
J'ai jamais vu.
Film de 2005. Donc, la princesse qui était bonne poire va devenir méchante et manipulatrice. C'était 2,7 millions de spectateurs, plus exactement. Troisième extrait.
On est martyrs pour quoi ? Pour Dieu ? Pour être des héros, pour montrer qu'on est les meilleurs.
Non, non, non. On est martyrs par amour, par fidélité. La mort, si elle nous prend, c'est malgré nous. Parce que jusqu'au bout, on va essayer d'éviter. Notre mission ici, c'est d'être frères de tous.
Alors, trouvez.
Le chien joue vachement bien, Frédéric.
Des hommes et des dieux, oui. De Xavier Beauvois.
Oui, film de Xavier Beauvois qui revient sur l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie en 96. Bien, de quoi montrer aussi que Lambert Wilson fait dans la comédie et également, effectivement, dans le drame, 3,2 millions d'entrées en France.
Troisième commandement, mon cher prince, l'understatement, ou l'art de l'euphémisme. Loin des subtilités incessantes des conversations cosmopolites. On dira peut-être qu'un costume est moche. Mais ici, on préférera dire qu'il est triste. On ne dira pas qu'il est cher, mais on constatera simplement que le loyer commercial rue François 1er n'a pas connu d'érosion.
Et donc, je n'habite pas dans un château, mais dans une résidence.
Eh bien voilà, vous parlez déjà couramment le faux modeste.
C'est trouvé, Manu.
Jet Set.
Oui. Film de Fabien Otaniente de 2000, 1,9 million d'entrées en France pour voir eh bien, ce petit détour dans la Jet Set parisienne. Dernier extrait.
Timide ce soir, mais c'est exprès.
Alors c'est sans doute que je vous dégoûte.
Ah, dites plutôt que vous me plaisez trop.
Que dis-tu de mon décolleté ?
Et pardon.
Que dis-tu de ce grain de beauté ?
Ah, follow.
Et mon dos ?
Quel morceau ?
Et ma peau ?
Et les os ?
Et le reste ?
Ah mon Dieu, j'ai chaud.
Alors ?
Quoi ?
Qu'est-ce que vous en dites ?
Bon, c'était un petit piège, mais on l'entend quand même.
Oui, mais sur ce rap-pas, là, pour le coup, je connaissais bien le film. Mmh. Donc, on connaît la chanson d'Alain René.
Oui, à noter qu'il a été nominé pour l'acteur du meilleur second rôle, mais ce n'est pas lui qui l'a eu, c'est Jean-Pierre Bacri qui l'a eu. Voilà, 7 Césars pour ce film d'Alain René de 97. Ainsi s'achève le blind test spécial Lambert Wilson. On retourne à l'actualité du cinéma avec Le Lion. Une comédie que tu as à nouveau vue, Marine.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Je suis le docteur Tardy. Commencez par me dire comment vous appelez.
Léo Milan, nom de code le lion.
Léo Milan n'existe pas.
C'est ma couverture.
Un un psy interprété par Philippe Catherine doit prendre en charge un patient assez obsessionnel, interprété, comme vous l'avez entendu, par Danny Boone, qui lui se prétend agent secret, répondant au nom de code Le Lion. La femme de Philippe Catherine se fait enlever et il se retrouve obligé de s'allier avec Le Lion pour tenter de la sauver sans vraiment savoir s'il est réellement agent secret ou juste complètement fou.
Vous n'êtes pas un espion.
Règle numéro 1, ne jamais se fier aux apparences.
Arrêtez à la fin.
Règle numéro 2, ferme ta bouche, t'auras chaud aux dents.
Vous êtes sûr de vous, là ?
Je l'ai déjà fait en Indo.
L'Indochine, c'était les années 60. Vous n'étiez même pas né.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Rendez-vous, vous êtes cerné ! Oh, on est deux ! On n'est pas armés !
Alors, comme je ne savais pas par où commencer, en fait, pour lister tout ce qui ne va pas dans ce film, j'ai fait un abécédaire pour m'y retrouver. Je vous rassure, je ne vais pas jusqu'à Z. Je m'arrête au L. A comme action. Faire une comédie d'action, eh bien pourquoi pas. Encore faut-il avoir un minimum de sens de la mise en scène. J'ai compté, parce que je suis pour les preuves mathématiques, j'ai bâillé 11 fois pendant les 1h50 du film. Donc je crois que ça fait environ un bâillement toutes les 10 minutes. Et j'ai ri 0 fois. B comme Belmondo, la référence évidente de Danny Boone ici, qui avait déjà fait pas mal de muscu pour le film Red Dingue. Donc visiblement, il cherche à rentabiliser son entraînement physique en multipliant les scènes de baston et les plans sur ses pectoraux saillants. Sauf que, je vous spoil un peu, lorsque Danny Boone tente le sourire charmeur, ça fait pas exactement le même effet que Belmondo à la grande époque. C'est comme Cascade. Elle se résume ici à de nombreuses chutes de Philippe Catherine bien lourdes dans tous les sens du terme qui font beaucoup rire Danny Boone et c'est le seul. Rire de quelqu'un qui tombe, c'est quand même la forme d'humour la moins évoluée en même temps. Eh bien, on ne peut pas rire de grand-chose d'autre, on en arrive au D, les dialogues. Je pense n'avoir que rarement entendu, subi une telle, des dialogues d'une telle indigence. D'ailleurs, je n'étais pas la seule à attendre que le film se termine. Je vous cache pas que les rires dans la salle étaient assez rares. Et je me plains à chaque comédie française que je chronique, mais on nous refait encore le coup du français qui parle mal anglais. Peut-être est-il temps pour les scénaristes de renouveler leur stock de blagues, eux comme émotion. Danny Boone nous avait déjà fait le coup avec le film Radin. Il veut prouver qu'il sait jouer et dans Le Lion, il s'offre un dénouement tout en émotion, mais complètement ridicule, donc complètement raté. F comme femme. Eh bien, comme d'habitude, c'est une situation qu'on connaît bien dans les comédies françaises. Des acteurs de 55 ans au physique quand même plus que moyen se retrouvent grâce au pouvoir magique des scénaristes en couple avec des bombes de 35 ans grand max. Par contre, bien sûr, vous ne verrez jamais l'inverse. Encore une chose que je dis à chaque comédie française. Dans Le Lion, on ne déroge pas à la règle. On retrouve Anne Serra et Carole Brana. Je cite quand même leur nom, même si leurs répliques sont assez minimes. G. comme gros placement de produits. Ici, c'est une voiture, entre autres, dont je ne citerai évidemment pas la marque, qui bénéficie d'une scène de course-poursuite filmée, mais alors vraiment comme une pub télé. C'est le seul moment du film qui est bien filmé, comme par hasard. H comme hautement ennuyeux. Le gros souci du film, et vraiment j'y suis allée en sachant que je ne verrais pas un chef-d'œuvre, mais en espérant au moins passer un bon moment, le gros souci du film, c'est qu'il n'est même pas divertissant. I comme introduction, la première scène du film est tournée à Dubaï, façon clip de promotion pour donner envie aux gens de venir visiter ce très beau pays dans lequel vivent à présent toutes les stars de télé-réalité et qui a, on le sait, un très bon ratio droits de l'homme et pollution. Donc autant vous dire que le film commençait déjà sur de très mauvaises bases. J comme jeu, comme mauvais jeu. Les comédiens font le strict minimum, n'apportant aucune nuance, jouant simplement le duo antagoniste. On sent bien que la chèvre ici est évidemment la référence majeure. D'ailleurs, le réalisateur ne s'en cache pas. K comme Philippe Catherine, qui devait avoir des factures à payer pour accepter ce rôle. Mais point intéressant, pour une fois, ça n'est pas lui qui joue le fou dans le film. Et on finit avec donc le L, Ludovic Colbeau Justin, c'est le réalisateur du film. Si son nom ne vous dit rien, c'est normal. Il a surtout fait des téléfilms auparavant. Et c'est lui qui a notamment commis la désastreuse comédie C'est tout pour moi, en 2017, qui mettait en scène l'humoriste Nawel Madani. Un film tellement mauvais que j'ai pensé d'ailleurs que c'était l'humoriste elle-même qui l'avait mise en scène seule, mais non, c'était lui. Comment cet homme s'est-il retrouvé à piloter un film comme Le Lion, dont le budget est de 14 millions d'euros ? Ce sont les mystères du cinéma français. C'est tout pour moi, du coup, j'ai envie de dire.
Bon, moi, j'avais M comme mauvais, N comme nul. Enfin, ça.
En fait, oui. C'est
comme
vrai
horrible.
Que si je n'avais pas été paresseuse, avec un P, j'aurais pu en effet poursuivre cet abécédaire jusqu'au Z, bien sûr.
Allez, on va changer d'ambiance avec un jour si blanc, drame contemplatif entourant un deuil.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Ja, dat tilfling benam. Rafaelek wa.
Et attention, blind test. C'est quelle langue? Ah ah.
Islandais.
Norvégien.
Oui, islandais. Bravo. Allez, Ilmur Palmason, réalisateur islandais, fait partie des grands cinéastes, de ceux qui, avec très peu de moyens, parviennent à faire du cinéma où images, son, musique, montage, récit permettent en toute cohérence et avec un souci formel indéniable de captiver le spectateur. Ce réalisateur avait sorti en 2018 Winter Brothers, un film d'une beauté et sensibilité troublante tourné dans une mine au Danemark. C'était mon film vraiment favori de 2018. Alors, il nous emmène cette fois-ci dans son pays, en Islande, un pays garni de roches. Le minéral semble être un élément de prédilection et son personnage principal, Ingimundur, commissaire de police, a tout d'un rock. Veuf depuis 2 ans, il ne laisse rien transparaître de ses émotions qu'un psychologue patient tente vainement de sonder. Il porte le deuil mais ne le résout pas, préférant ériger des murs entre lui et les autres, solidifiant encore davantage ses sentiments vis-à-vis d'une femme partie trop tôt. Le film suit cet homme qui est de tous les plans et nous conduit de sa rage à sa libération, car sous son apparente rudesse, ce père et grand-père est évidemment capable de fendre l'armure. Le film alors s'ouvre sur une citation: quand tout est si blanc qu'on ne peut plus faire la différence entre terre et le ciel, entre la terre et le ciel, les morts peuvent nous parler à nous qui sommes vivants. Je vous laisse le temps de réfléchir. Cette brume blanche qui ne fait qu'un, eh bien, on la verra souvent. Cette phrase ne cessera de planer durant tout le film avant d'être, au sens plastique du terme, un élément primordial composant une des nombreuses séquences charnières de Un jour si blanc. Alors, Ingimundur, le flic qui n'exerce plus, va retrouver un réflexe professionnel quant au détour, eh bien, d'une boîte d'effets personnels ayant appartenu à sa femme. Il découvre qu'il aurait pu le tromper. Enquêter sur les morts qu'on aime, l'exercice n'est pas des plus faciles, mais le flic s'enferme dans cette tâche obsessionnelle. Alors même s'il est traversé ici et là de coups d'éclat, le rythme d'un jour si blanc est plutôt celui, eh bien, du quotidien, celui d'une maison que le personnage bâtit pour sa fille. Alors si au début du film, dans cette nature islandaise, les chevaux arrivent à mettre les pieds dans la bâtisse, eh bien à mesure que le film avance, ces excentricités n'auront plus lieu d'être. C'est aussi, eh bien, le quotidien des relations exclusives qu'il entretient avec sa petite fille que le réalisateur donne à voir. Il est si sincère avec cet enfant que lorsqu'elle demande une histoire qui fait peur, eh bien, il va chercher la plus effrayante pour capter son désir de réconfort, peut-être. Alors, cette petite fille qui garde encore notre personnage du côté des vivants sera le témoin de la chute de son grand-père, de sa rage. Parvenant à rendre admirable et plausible cette relation transcendant les générations, le réalisateur n'aura bien que plus de mérite de s'y attacher jusqu'au bout. Alors, difficile finalement de parler d'une telle œuvre, si ce n'est qu'elle est travaillée par un récit limpide, au sens où il n'y a par exemple aucun flashback nous montrant notre personnage en connivence avec sa femme disparue avec de la musique sirupeuse. Le réalisateur en fait l'économie, il traque le présent, sa douleur, sa durée. Le film est également travaillé par une esthétique de l'image, une composition des plans et des formes dans l'image. Il y a bien sûr alors ce blanc, mais aussi le choix de caméra fixe ou épaule, des grands angles au gré des actions du personnage. Ilmur Palmason est issu d'une école d'art, ce qui peut expliquer qu'il n'entrevoit pas le cinéma sans un souci esthétique. On cherchera désespérément peut-être la musique qui se fait très discrète. Si le film captive nous emmène, c'est que sa construction est incarnée tout entière dans un récit, dans l'image et le jeu même d'un acteur quinquagénaire incarnant la force tranquille. Il a reçu le prix d'interprétation à la Semaine de la Critique à Cannes, mais l'interprétation est loin d'être l'argument massif pour aller voir donc Un jour si blanc, film islandais qui sera dans peut-être très peu de salles, mais que je vous recommande chaudement pour un film islandais. Nouveau regard sur le conflit algérien, qu'un son impur. Manu nous en parle.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Je veux que vous alliez dans les Aurès Nemancha et que vous trouviez le corps du colonel Simon de Limière. Dans moins de 6 jours, le napalm aura tout brûlé.
Alors, premier long métrage d'Abdel Raouf Dafri, scénariste d'Un prophète, qu'un sang impur et bardé de bonnes intentions, à commencer par celui de traiter un sujet épineux, trop souvent négligé dans le cinéma français, la guerre d'Algérie. Alors, la démarche du cinéaste intrigue, il ne tient pas à livrer, on va dire, une œuvre à charge, un film engagé dénonçant la colonisation. Le refus de la victimisation et la volonté de laisser de côté le discours attendu sur le racisme sont les bons points de ce film ambitieux, rappelant vaguement certains films de Robert Aldrich comme Les 12 salopards. Et aussi, finalement, sur la fin, Apocalypse Now. Hélas, le constat est sans appel qu'un sang impur est un ratage ahurissant, vaguement racheté par la sympathie que l'on éprouve pour l'originalité de l'angle abordé. Pourtant, ça débute plutôt bien par une séquence immersive d'une violence inouïe montrant la guerre dans ce qu'elle a de plus sale et abject. Mais passé ce prologue, cette histoire d'un commando emmené par un colonel à la recherche de son ancien officier supérieur disparu dans les Aurès, cumule les pires tares du mauvais cinéma d'action. Le film ressemble à une série B guerrière souffrant d'un mal très contemporain, la prétention. Les dialogues sont d'une lourdeur digne d'un char d'assaut, sont débités par des comédiens qui peinent à défendre des personnages sans aucune épaisseur. Pire, ils sont presque tous mauvais, à commencer par la pauvre Lina Koudry, qui fronce les sourcils pour montrer qu'elle est en colère. Sa prestation très embarrassante, qui rappelle le pire du cinéma Z italien, est néanmoins surpassée par celle, alors hallucinante, d'Olivier Gourmet, dans un numéro de bouffonnerie où il se prend pour Marlon Brando dans Apocalypse Now. Il déclame son texte comme un politicien, Macron par exemple, en plein meeting politique, risquant la rupture d'anévrisme à chaque réplique, transformant alors le film en un gros pensum un peu idiot, devenant presque divertissant par sa nullité. Non, j'exagère, parce qu'il y a de bons points comme la photographie qui évoque les westerns, on va dire les westerns des années 70, une ambiance comme ça crépusculaire, mais je trouve le film d'une bêtise totale.
Ce sera la conclusion de cette émission.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on aura encore des films.
Revenir, et puis Un soir en Toscane.
Et puis toi, Marine ?
Et on a vu La dernière vie de Simon, qui nous a beaucoup réjouis.
Et on écoutera le réalisateur Léo Carman et le bon comédien Benjamin Voisin.